À Rencontre spirituelle aujourd'hui, c'est une façon de fêter Noël, c'est de rendre hommage à un ramoneur de cheminée, illettré, analphabète, qui a fondé quand même une congrégation de frères qui s'occupent des malades et qui existe toujours. Il est mort en 1860 et sa congrégation dure toujours, les Frères de la Miséricorde. Et puis il a tout fait ça sans savoir lire et écrire. Et avec un courage extraordinaire, il est mort jeune, à 40 ans, mais ce bienheureux Pierre Friedhofen est vraiment né, puis a grandi comme Jésus, qui est né dans une crèche et qui a mené une vie bien simple à Nazareth. Il était ramoneur, oui. Pas grand-chose. Vous connaissez ça, des ramoneurs, probablement, hein? On voyait ça quand j'étais jeune, je m'en souviens, ça existait. On les voyait, ils étaient tout noirs, tout couverts de suie. Et depuis le 23 juin 1985, c'est récent, il y a quelques années à peine, mais on peut dire que les analphabètes et les ramoneurs ont un modèle, un protecteur, en la personne de ce bienheureux Pierre Friedhofen, qui... Pendant près d'un tiers de sa vie, disons 14 années sur 41, en fait il est mort à 41 ans, mais il s'était donné à cette tâche de débarrasser les cheminées de cette poussière noire qui peut bloquer les cheminées. Oui, les bloquer, ça suscite des incendies épouvantables. C'est comme ça que parfois des portions de ville passaient au feu à cause d'une cheminée bloquée. C'est arrivé deux fois à Montréal, probablement pour cette raison, au siècle dernier. Beaucoup de maisons sont en majeure partie bâties en bois à cette époque, comme c'était à Montréal autrefois. Et aussi, pour prévenir les incendies, bien, il faut quatre fois par année, nettoyer toutes les cheminées. Puis tous les deux mois, il faut nettoyer celles des fours, des brasseries, des raffineries. C'est tout un travail qu'a le ramoneur. Mais qui est alors ce patron des ramoneurs, ce... Pierre Friedhofen, je vous appelle le nom, c'est un nom allemand, hein? Fried, F-R-I-E-D, Hofen, H-O-F-E-N, d'un seul mot, hein? Friedhofen. Mais il est né, vous savez qu'il y a des ramoneurs à Montréal, peut-être que vous ne le saviez pas. Si vous regardez dans votre annuaire téléphonique à cheminée, vous allez voir, cheminée, ramonage, oui, puis il y en a un qui s'appelle le joyeux ramoneur. Et puis, il y a même le ramoneur du foyer. Il y en a même un qui a un nom uniquement anglais. C'est surprenant, tout est en anglais. C'est pas son nom de famille, c'est tout en anglais. Alors, il y en a plusieurs. Et Pierre Friedhofen, lui, est né le 25 février 1819, près de Coblence, en Rhénanie. Il va d'ailleurs établir sa congrégation à Coblence. Et ils sont six enfants dans sa famille. Lui, il est l'avant-dernier, un des plus jeunes, quoi, le cinquième. Son père s'appelait du même nom, Pierre Friedhofen. C'est un paysan. Et sa mère, Anne-Marie Klug, K-L-U-G. Je le signale parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui sont d'origine allemande, ils vont peut-être reconnaître leur nom. Hein? Alors, son père meurt en septembre l'année suivante. Déjà, à un an et demi, il est orphelin de père. Et sa mère meurt à son tour alors que le pauvre petit Pierre atteint à peine sa neuvième année. Il a 8 ans, à peine. Et les plus jeunes des orphelins sont recueillis, lui et l'autre après lui, sont recueillis par une femme du village. Le village de Weitersburg, près de Coblence. Et alors, Pierre fréquente un peu l'école élémentaire, mais pas suffisamment pour vraiment apprendre à lire et à écrire. Après sa première communion en 1832, à 13 ans, il continue à travailler, il habite chez son frère aîné, Jacob, là, cette fois-ci. Puis, son frère aîné, Jacob, c'est un ramoneur, justement. Puis, non seulement il est ramoneur, mais il est ramoneur titulaire de la ville d'Arweiler. Et Jacob, chose assez extraordinaire, a épousé par compassion, par bonté, parce que c'est un grand chrétien, la veuve de son prédécesseur, qui est mère de 4 enfants. Or, avec elle, il a lui-même 8 autres enfants, ça en fait 12. Et ce Jacob, c'est vraiment un grand chrétien qui porte toujours sa Bible avec lui. Il paraît que ça aide à avoir beaucoup d'enfants que de lire la Bible et d'être un grand chrétien, un vrai. Ça existe au Québec, il y en a qui en ont 10, 12, 15 et même davantage. On voit ça parfois dans le journal. Alors, Pierre, donc, aide son grand frère Jacob dans sa tâche. Puis en 1837, à l'âge de 18 ans, il devient officiellement son associé. Alors le voilà embarqué. Mais sans instruction. Je vous le répète, il ne sait vraiment pas lire. À peine. Je sais pas écrire. En 1842, il est à son tour désigné comme le ramoneur titulaire d'un autre endroit de Vallendar. Il reçoit un salaire annuel. 200 $. Oh, j'ai fait des recherches, là. Ça, c'est pour nettoyer 853 cheminées. C'est un long travail, hein. 833 cheminées qu'il a à nettoyer puis à surveiller. Alors, 100 $, on pourrait dire quelques milliers de dollars à peine d'aujourd'hui, là. Pour quelqu'un qui vit aujourd'hui. Alors, grimper sur les toits, il y chante des cantiques à la Vierge. Il est pas stupide, ça se faisait. Quand j'étais jeune, on chantait facilement, même dehors, des cantiques comme ça. Ça existait encore. Alors, il chantait des cantiques à la Vierge, et parfois, si les gens s'attroupent, eh bien, il leur fait reprendre les refrains, puis... Vous savez, les Allemands aiment beaucoup chanter, hein. Et puis, les catholiques chantent comme ça, en public, des chants religieux, et les protestants aussi, j'imagine. Cependant, la population n'est pas tellement satisfaite de lui parce qu'il s'est senti plutôt faible. Il n'arrive pas à faire face à sa trop lourde tâche. 833 cheminées, c'est trop. Et c'est pourquoi, en juin 1845, il se plaint de sa maladie de poitrine à un moment donné à des gens. Puis, il propose sa démission au maire de la région, tout en promettant de rester à son poste jusqu'à ce qu'on lui ait trouvé un remplaçant. Alors, à l'automne, il se rend chez les rédemptoristes de Wittem, en Hollande. Et là, quand il voit ça, c'est la première fois qu'il voit une congrégation religieuse sérieuse, fervente, observante, parce qu'il y en avait d'autres qui étaient décadentes. Et il est fortement impressionné par ces rédemptoristes, qui mènent une vie régulière. Ils suivent la discipline, le silence, l'esprit de prière et de pénitence. Ce sont des religieux vraiment vivants, mais voilà que le 27 octobre, son frère Jacob meurt, il laisse 10 orphelins sur 11 enfants. Et sa veuve qui est enceinte encore, alors malgré sa pauvreté, Pierre, pour aider les siens, reprend son travail de ramoneur. Puis, en 1846, à 27 ans, il renonce à son travail. Il laisse la veuve, sa belle-sœur et ses enfants, il les abandonne pas. Il les laisse aux soins de l'administration qui se charge de les occuper parce qu'il y a une forme de socialisme, si on peut dire, et de bienveillance à l'écart des veuves. Et à cause de sa conscience professionnelle, toutefois, le maire lui demande de demeurer dans sa fonction sans avoir à assumer les charges de famille et parce qu'il tienne à l'avoir comme ramoneur. Il se remet donc à courir sur les toits. Il néglige quand même pas d'aider ses neveux. Mais finalement, le grand jour arrive, c'est le 27 décembre 1846. Il renonce définitivement à son métier. Il a 27 ans, je veux dire. Et qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, c'est simple. Lui qui n'a pas d'instruction, mais il va fonder une communauté importante, de grand dévouement. Et tout en étant ramoneur, ben Pierre ne manque pas de visiter les églises, de participer aux activités paroissiales. Il a une grande dévouement à un saint jésuite, un jeune saint jésuite, saint Louis de Gonzague. Or, avec un curé, il organise, justement à cause de ça, dans son pays natal, puis dans d'autres villages, des groupes de jeunes, masculins et féminins, des jeunes qui, tout en s'adonnant à leur travail, cherchent vraiment à vivre en chrétien modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, en chrétien modèle? Ben, je regrette de le dire, parce qu'aujourd'hui, c'est plus la mode, mais dévotion à l'Eucharistie, dévotion à la passion, pas à la dévotion à Marie, mais surtout un amour de l'Eucharistie et un grand désir de pratiquer l'humilité et aussi, ils veulent pas l'oublier, la chasteté. La chasteté. C'est pas très la mode aujourd'hui. Tous les membres essaient de tendre à la sainteté et à la sanctification de leurs compagnons. Il leur met ça dans le cœur. Et c'est le premier but. Alors l'évêque était enthousiasmé de voir ces jeunes qui vivent en chrétiens puis qui s'adonnent aux bonnes œuvres. Et on en parle un peu partout. Alors, il y a des oppositions, évidemment. Il y a des associés qui lui demeurent fidèles, heureusement. Alors, ils songent de plus en plus à un état de vie consacré avec certains d'entre eux. Le curé constate que Pierre tend de toutes ses énergies à devenir meilleur, à s'adonner à la contemplation aussi, puis à vivre dans l'union à Dieu. Et il déclare, « Si Pierre trouve un directeur intelligent, adroit et prudent, on pourra en tirer quelque chose, oui. » Or, ce Pierre Friedhofen, analphabète, découvre à Trèves un prêtre excellent, l'abbé Lies, L-I-E-H-S, qui va s'occuper de lui jusqu'à la fin. Un homme de confiance de l'évêque, d'ailleurs. C'est un curé aussi, qui comprend l'idéal de l'ex-ramoneur pour ses projets de zèle et de sainteté. Un gars peut devenir un saint, celui qui prend les moyens. Un gars ordinaire, c'est formidable de voir ça. Et en octobre 1849, selon ce qu'il écrit dans la suite, il dicte ses textes, il les écrit pas lui-même, il désire ardemment offrir sa vie à Dieu et à la Sainte Vierge en servant les malades. Il abandonne définitivement son métier, puis décide de s'installer dans un couvent. C'est une simple baraque, de 20 pieds sur 17 pieds, disons, avec deux chambrettes, les fondements sont en pierre, puis le reste de la maison est en bois. Alors on trouve un texte signé de lui. Cette maison... il écrit ça en 1849, il écrit à l'abbé Lys, « Cette maison sera dédiée à la bienheureuse Vierge Marie, et ici résonnera sa louange. On y mènera la vie austère des anciens saints religieux. Ni dérision dans cette communauté, ni persécution, ni pauvreté, ne pourront m'arrêter. Parce que, comme je le pense, le Seigneur est avec moi. Des frères me créent des difficultés, mais cela même, je l'ai offert au Seigneur. Oui, je l'ai offert au Seigneur. » Alors Pierre, en décembre, ouvre son cœur à l'abbé Lys et il dicte donc sa lettre. Il est toujours illettré. « Voici ce à quoi j'aspire, faire résonner nuit et jour les louanges de Marie ma mère, très aimée, et exercer toutes les œuvres de charité, spécialement le soin des malades. Depuis longtemps déjà, j'éprouve le grand désir de vie austère, mais tout ce que je ferai, je le soumettrai d'abord à l'approbation de l'évêque. Je n'accomplirai en rien ma volonté propre, mais quant à la manière de vivre, je pense que le véritable esprit religieux, c'est de demeurer seulement dans la pauvreté, là où s'enrichissent les couvents, se dissipe le véritable esprit de sainteté. » Il a osé dire ça, puis il a été béatifié, 100 ans plus tard. C'est tout de même quelque chose, dans l'Église. C'est beau de voir que ces gens, qui critiquent un peu, sont finalement béatifié et canonisé. Cet orphelin analphabète qui est le bienheureux Pierre Friedhofen, un orphelin analphabète, un homme très simple, mais c'était un réformateur, comme vous voyez. Réformer l'Église de l'intérieur, c'est ça qu'il veut. Il veut pas la diviser. Après un dur hiver, où il connaît à la fois une mauvaise santé et la tentation de découragement, ben Pierre, au mois de mars, exprime le fruit de ses réflexions. Voici ce qu'il dit. « Il faut un feu nouveau, un esprit nouveau, une nouvelle impulsion. D'abord, je me sens poussé à m'unir à Jésus, de la manière la plus étroite, puis à m'adonner à la conversion des pécheurs obstinés, ensuite à répandre profondément dans le cœur des hommes l'amour et la vénération envers la Mère de Dieu. Je veux assister les malades par amour de Jésus, donner à cette maison le nom de Marie, et pratiquer le plus possible la sainte pauvreté. » Alors, le 16 juin 1850, il confie ses impressions à son père spirituel. Il dit, « J'entends fonder une œuvre totalement nouvelle, une congrégation de Marie. Nous voulons prendre le nom de Frère de la Miséricorde de Marie Auxiliatrice. » Auxiliatrice, son aide. Parce qu'après Dieu, dit-il, c'est de Marie que me vient tout secours. Si l'on me dit qu'il est difficile de faire une nouveauté, je réponds que malgré la difficulté, Marie Auxiliatrice nous rendra la tâche aisée. Ensuite, je veux installer un noviciat, vivre dans un couvent, Puis il faut s'occuper de l'assistance aux malades. Voilà certainement ce qui sera utile à notre œuvre. Mais nous voulons faire autrement qu'au couvent d'Aix-la-Chapelle, où il y a un couvent d'Alexiens décadents. Alors, avec ce plan en tête, le 13 juillet 1850, Pierre le ramoneur se rend à Aix-la-Chapelle, quand même, avec Charles Marchand, fils d'un maire d'une petite ville qu'il a rencontré autrefois. Charles Marchand est un drôle de type. Il a quitté les rédemptoristes, mais il a demandé à Pierre de l'accueillir. Alors, pour plaire à l'abbé Lys, là, Pierre Friedhofen doit accomplir chez les Alexiens, cette communauté décadente d'Aix, une année de noviciat. Et si elle est probante, bien là, il va pouvoir recevoir l'habit religieux, puis sera admis au vœu. C'est pas drôle d'aller chez des décadents. Et voici donc, au bout de 2 mois, qu'à l'insu de Pierre Friedhofen, ben Charles Marchand, son ami, l'a écrit au prêtre pour lui dire que Friedhofen et lui en savent assez sur l'assistance aux malades, et puis ils en ont marre, des Alexiens, et qu'ils vont quitter Aix pour commencer leur nouvelle œuvre. À quoi sert, ajoute-t-il, de rester dans ce désordre, le désordre d'une communauté décadente? On ne peut rien y apprendre, et nous n'avons pas besoin qu'un des frères Alexiens vienne chez nous pour nous guider. C'est clair. Alors, Pierre Friedhofen et Charles Marchand quittent Aix, Aix-la-Chapelle, en novembre 1850. Sont munis d'un certificat très élogieux quand même du supérieur des Alexiens, des frères Alexiens. Alors, ils entrent dans leur couvent, en arrivant là, et puis ils attendent, dans la quinzaine, un troisième compagnon, Pierre Hotten, qui va faire partie du début de la communauté. Et d'ici peu, bien, ils enverront à l'évêque une ébauche de leurs règles. Ils vont prendre le nom de Frères de la Miséricorde de Marie. Pendant ce temps, Marchand, là, le gars, dénigre Pierre Friedhofen. C'est un drôle de bonhomme, hein? Et il reste pas dans les communautés où il rentre parce qu'il y a un esprit trop critique et désagréable. Alors, quand Marchand, un jour, revient auprès de Pierre Friedhofen, celui-ci lui déclare, « Si tu veux partir, tu sais, fais-le. Mais ne pense plus à cette œuvre. Tu abandonnes tes frères au moment des difficultés. Je te regarde avec un œil triste, oui, vraiment. Tu as déjà été dans 3 couvents, déjà. Tu n'y es jamais resté. Et je sais que tu n'iras pas dans un 4e. » Alors, l'abbé Lys croit devoir sauver cette vocation, quand même. Il demande à Pierre de le reprendre, mais Marchand continue à proclamer que Pierre est incapable de mener l'œuvre à bien puisqu'il est analphabète, etc. Mais cependant, l'abbé Lys conseille à Pierre de fonder sa maison à Coblenz, justement, selon le désir de l'évêque, et il s'y rend donc, puis il rencontre un curé là-bas, l'abbé de Lorenzi, qui est curé d'une paroisse, paroisse Notre-Dame. Puis le maire aussi accueille favorablement le projet de frères qui vont s'occuper des malades. Une maison est trouvée, elle est louée, mais c'est assez cher. Reste à trouver comment payer le loyer. Hein. Puis, l'année suivante, en février, s'y installe. Pierre Friedhofen s'installe là avec Pierre Hotten. 2 pièces seulement sont habitables. L'une d'elles doit être réservée aux malades. Alors, l'autre, c'est un dortoir pour les frères. Coblenz, c'est quoi ça? C'est la capitale de Rhénanie. C'est au confluent de la Moselle et du Rhin. C'est un champ d'action plus vaste. Et il va recevoir de l'aide plus efficacement. Il y a 3 prêtres qui soutiennent d'abord le jeune fondateur, le curé de Lorenzi, que je vous ai dit, dont je vous ai parlé. Puis il y a un homme très important qui va devenir cardinal archevêque de Cologne. C'est l'abbé Philippe Krementz, qui comprend ça aussi, un homme de cœur. Et aussi le doyen du chapitre des chanoines, là, qui est un prêtre, un très bon prêtre aussi. Alors, il est bien entouré. Et le curé de Lorenzi, en particulier, avertit les médecins qu'il y a à présent des frères capables d'assister les malades. Et dès le début, Pierre dicte une lettre à l'abbé Lys, son quasi-directeur de spirituel. Là. Il écrit ceci, c'est beau. Hein. « La bataille quasi insoutenable est heureusement gagnée. Lorsque je vous ai écrit la première fois, je ne savais encore ni comment ni quand j'aurais accompli mes projets, mais vous avez attisé le feu dans mon cœur. » Les prêtres, ça attise le feu dans notre cœur. Hein. « Vous avez attisé le feu dans mon cœur. Vous m'avez appris à prier avec la plus grande confiance. vous m'avez mis sous les yeux les figures des saints fondateurs, saint François, saint Dominique, saint Thérèse. Vous avez eu raison. Je ne puis obtenir la prière faite en union avec la volonté de Dieu. Oui, le bon Dieu embrase les tout-petits et les conduit. Vous ne m'avez jamais abandonné dans les moments plus difficiles et incertains. Ce furent des jours pénibles, mon père. Mais avec l'épée du rosaire, on a ouvert la route. Depuis, tout est passé. Contradiction, mépris, pauvreté, peur et souffrance. Puis le bienheureux Pierre Friedhofen aborde la question d'un supérieur que pourraient envoyer les frères alexiens d'Aix-la-Chapelle, un supérieur terrible probablement, hein, décadent. Il dit « Je vous ai écrit que cette œuvre devait naître d'un feu nouveau et d'un esprit nouveau. Alors, à présent, cette œuvre a déjà germé et l'on en voit déjà les fruits. Oh, mon père, comme il me déplairait de voir un esprit étranger s'y mêler et en gâter la pureté. Et puis j'ai promis que nous devrions nous appeler les frères de la miséricorde de Marie Auxiliatrice. Si l'on veut infuser une autre mentalité, celle des Alexiens, qu'arrivera-t-il? Il me semble que si quelqu'un a une vocation, il recevra encore la grâce nécessaire pour répondre à son appel. Hein? » Alors finalement, le 10 mars 1851, les choses se font vite, on fait savoir que le jour de l'Annonciation, le 25 mars, Pierre Friedhofen, Charles Marchand, qui est toujours là, et Pierre Hotten pourront revêtir l'habit religieux. Ce sera le même que celui des frères alexiens, mais avec une ceinture de cuir et un rosaire. Pourquoi je mentionne ça? C'est que le fondateur tient à ce vêtement religieux pour obtenir la confiance des gens. C'est tout le contraire aujourd'hui. On croit qu'il faut enlever les vêtements religieux pour avoir la confiance des gens. Ben, on a peut-être raison, mais en France actuellement, c'est plein de communautés qui portent des costumes et qui se multiplient par centaines et par centaines. Ils ont énormément de vocations et font beaucoup de bien. Ne serait-ce que les gris-gris que l'on connaît, il y en a deux ici, je crois, ou trois au Québec, sont merveilleux. Dans les Laurentides, là. Au mois de mai, l'abbé de Lorenzi, là, écrit aux Alexiens pour leur demander quelqu'un en vue de diriger l'œuvre de Coblence, mais personne ne vient heureusement. Et notre ancien ramoneur analphabète, reste pour 10 ans à la tête de son institut. L'évêque, d'ailleurs, se rend compte qu'il ne peut ne confier aux Alexiens, ça n'a pas de sens, c'est un ordre religieux en pleine décadence. Alors, il nomme l'abbé de Lorenzi commissaire épiscopal, et ce bon prêtre, comme ça, conserve donc la direction de l'œuvre. Charles Marchand, qui a pris l'habit, comme je vous ai dit, le 25, en compagnie des deux autres, quitte définitivement le bienheureux Friedhofen en mai pour aller chez les frères d'Aix, les Alexiens décadents, où il ne reçoit pas d'ailleurs. Un instable. En revanche, l'évêque autorise l'année suivante Pierre Friedhofen et Pierre Hotten, ces deux frères-là, à émettre des vœux perpétuels, puis à deux nouveaux venus de prendre l'habit. Alors ça commence difficilement, hein? Et la cérémonie a lieu après une retraite de 6 jours, et les nouveaux prophètes se sont engagés à quoi? À une obéissance complète, à une pauvreté spontanée, totale, à la charité perpétuelle, puis au service des malades. Et c'est ça qui rend heureux, paraît-il, ces gens-là qui ont la vocation. Cependant, quelques mois plus tard, la petite maison des frères de la miséricorde est trop petite pour les 7 frères et quelques malades, et il faut en acquérir une plus vaste, pour une somme énorme, et ce serait la maison mère de la congrégation des frères de la miséricorde de Marie Auxiliatrice. Alors, des bienfaiteurs qui les aident. Il y a même la princesse de Prusse, le président de Rhénanie, l'évêque lui-même, puis différents prêtres qui les aident. Mais toutefois, de 1849 à 53, les prêtres qui l'aident, là, tout en considérant Pierre Friedhofen comme un homme tout donné à Dieu, ne trouvent pas, à cause de sa culture trop élémentaire, puis il n'est pas assez savant, il ne pense pas qu'il soit capable d'être le fondateur d'un institut religieux. Et ce sont 4 années bien humiliantes pour le bienheureux Pierre Friedhofen, qui est traité en supérieur provisoire en attendant un successeur. Mais Pierre se maintient dans une humilité héroïque qui désarme ses supérieurs, et ceux-ci, peu à peu, comprennent que Dieu, pour son service, peut se servir autant d'un analphabète que d'un homme instruit. Et le 8 avril 1853, bien l'évêque approuve l'admission des 3 candidats aux vœux perpétuels, et Pierre, il écrit à Pierre, « Bien, la croissance numérique et spirituelle de vos frères me remplit de joie et le bon Dieu a béni d'une manière merveilleuse cette petite communauté. Et c'est une raison de croire que si elle garde fidèlement cet esprit, elle pourra travailler dans d'autres champs plus vastes au loin. Je vous bénis. Et aujourd'hui, à l'occasion de Noël, il faut bien fêter les pauvres, les simples. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un peu comme ce pauvre fils que j'ai adopté, qui était un illettré comme ça. Au grand cœur, ces hommes, vous savez, souvent ont un très très grand cœur. Alors c'est le bienheureux Pierre Friedhofen, un jeune Allemand mort à 41 ans en 1860, qui a fondé une communauté. Alors au couvent, le travail est organisé rationnellement. Puis le bienheureux Pierre Friedhofen décide de faire bâtir une chapelle dédiée à Marie Auxiliatrice. Or, imaginez que le 10 décembre 1855, elle est ouverte au culte. Puis l'année suivante, on achète un autre édifice hospitalier, puis on construit, on ajoute, tout ça se remplit de frères et de malades. Mais lors de la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, je le signale pour les plus jeunes, parce qu'il y en a qui sont tout jeunes, qui m'écoutent, qui ont 8-9 ans, hein. Bien, tous ces bâtiments ont été détruits pendant la guerre, sauf la chapelle en l'honneur de Marie. Comme si Marie avait veillé sur sa chapelle. C'est possible. Alors, à partir de 1854, des démarches sont faites pour obtenir la reconnaissance officielle, juridique, de la congrégation de ses petits frères. De son côté, le frère Pierre Friedhofen rédige des instructions spirituelles. Oh, c'est beau, ça. Je vais vous en faire des lectures, des passages. Des instructions spirituelles pour la vie religieuse et pour l'assistance aux malades, tant au couvent qu'en dehors. Alors, en 1856, Monseigneur de Lorenzi travaille à élaborer des constitutions qui sont approuvées par l'évêque le 21 janvier 1857. Ça y est. Oh, puis c'est une date à retenir, peut-être, pour ceux qui aiment des communautés fondées comme ça par un analphabète, un homme simple. Enfin, le frère Pierre, à partir de 1857, donc, envoie à ses disciples 7 lettres circulaires, ainsi qu'un petit livre, un testament spirituel, qui est magnifique. Mais il insiste, hein, les frères ne doivent être engagés à aucune autre tâche que l'assistance aux malades. Notre règle n'est pas adaptée à d'autres besognes, dit-il. Ce n'est que 60 ans après la mort du bienheureux, il est mort en 1860, c'est donc vers 1920, ce bienheureux Pierre Friedhofen, 60 ans après sa mort, que l'on se préoccupe de recueillir des témoignages sur ses vertus. C'est un frère tellement simple, on n'avait pas pensé de le béatifier. Alors, on a gardé bien des souvenirs de sa vie héroïque, heureusement. Il a vécu dans la plus rude pauvreté, mangeant très peu, tout en désirant que ses compagnons, qui passent tant de nuits auprès des malades, soient mieux sustentés, quoi. Alors, sa charité pour les pauvres est immense. Il donne tout. Il donne tout. Même s'il ne lui reste rien pour se nourrir. Il est extraordinaire. Il fait des dettes pour assister les pauvres. Et 3 fois la semaine, il se rend au marché pour recevoir de la nourriture pour les indigents. Hein? Parce que quand le marché ferme, bien, les gens le connaissent. Les cultivateurs lui donnent des choses. Et lui-même se réserve le privilège de distribuer ses aliments. Mais c'est surtout un contemplatif. Il est les deux à la fois. Mais sa contemplation est immense. Vous savez, il marche comme on faisait autrefois. Ça se fait plus aujourd'hui. Mais il marche les yeux baissés, en perpétuelle prière. Et il passe des nuits entières devant Saint-Sacrement. Ça recommence, ça, les nuits entières devant Saint-Sacrement. Hein? De plus en plus populaire en Italie, aux États-Unis. Plus en plus populaire. Et ici, il y a des paroisses où des paroissiens ont la clé de la chapelle du Saint-Sacrement. Ils peuvent aller prier la nuit. C'est bien les prêtres qui font ça. C'est admirable. Et les laïcs qui partent de chez eux comme ça. Quant à son obéissance au bienheureux Pierre, elle est toujours extraordinaire. Jamais il ne discute les ordres de l'évêque. Il n'entreprend rien d'important sans l'avis du curé, d'ailleurs. Il se sait ignorant. Il le sait. Il déclare qui ne se trouve en sécurité que dans la soumission. Et sa manière de voir diffère de celle de Mgr Arnoldi, de l'abbé Lys et du curé de Lorenzi. Mais jamais, jamais, il n'a de dissension avec eux. Pas de dispute. Il sait tout supporter avec patience, même les injures. Hein. Imaginez, c'est une sorte d'injure qu'un homme riche lui a fait un jour. Cet homme riche, un seigneur, est mort, assisté par les frères. Il a laissé tous ses biens, toutes sortes d'œuvres pieuses. Mais il lègue absolument rien à ceux qui l'ont soigné. Alors quelqu'un le fait remarquer à Pierre, qui réplique, « C'est justice que nous ne recevions rien, nous ne sommes ici que pour être oubliés. » Faut le faire, hein? C'est pas facile d'être oublié. De prendre ça comme ça, puis de se dire, « J'ai tout fait, et rien ne m'est revenu. Je suis oublié, je suis seul. » Plus encore que les témoignages, les écrits de cet homme simple et extraordinaire, oui, simple et extraordinaire à la fois, eh bien, ces écrits témoignent de la profondeur de sa foi, de sa charité. Ses lettres circulaires et son testament spirituel, oh, c'est superbe. Bon, je peux choisir quelques phrases toutes simples de cet illettré qui dictait ses lettres, hein, avec une sagesse surnaturelle que lui inspirait l'Esprit-Saint. Il écrit... Votre vie, il écrit ses frères, hein? Votre vie est pleine de fatigue et soucis et de peine. Soyez donc fidèles à méditer l'amère passion de Jésus-Christ. Parce que c'est en méditant sur le crucifix que l'amour croît jusqu'à en être géant. Il continue, c'est tellement beau. Ah, je trouve ça extraordinaire, un analphabète. Quand le brouillard couvre la terre, il est impossible de voir le ciel. Mais à peine se dissipe-t-il que le ciel apparaît splendide. Ainsi le cœur dans le péché, ni ne voit, ni ne sent, ni ne comprend Dieu. L'âme pieuse, en revanche, pénètre les mystères de Dieu, car le Seigneur lui ouvre la porte, et nous pouvons entrer et voir tout ce qu'il y a dans cette maison. Préparez-vous, mes frères, à cueillir en toutes choses un motif de joie et de louange. Dans le plus humble brin d'herbe, reconnaissez l'aimable toute-puissance de Dieu et criez, « Seigneur, comme elle est grande ta puissance !» Sachez ce qu'est aux yeux de Dieu l'âme d'un saint religieux. C'est un beau matin de printemps. Entrez un matin d'été dans un jardin, tout brin d'herbe est orné à sa pointe d'une goutte d'eau que vienne un rayon de soleil et toute... Fleur fait jaillir la joie, et toute goutte de rosée devient un cristal. Ainsi l'âme sainte aux yeux de Dieu. Imaginez un analphabète qui dicte des lettres comme ça, que c'est beau, c'est l'Esprit Saint, hein? Que c'est beau l'Église dans ses saints. Assez souvent, d'ailleurs, on retrouve chez le bienheureux frère Pierre Friedhofen une espèce de tendance franciscaine, on peut dire, hein, à rejoindre Dieu à partir des beautés de la nature. En 1859, il compare l'automne de l'année à celui de la vie. Il dit, en voyant les fruits, nous disons, « Toutes ces plantes ont bien employé leur temps. À l'automne de ma vie, mon fruit sera-t-il grain pour le grenier ou ivraie à rejeter, et moi avec elle ?» Alors, il dit que des lettres au supérieur des maisons, il insiste sur l'esprit de pauvreté. C'est le travail des frères à rapporter de l'argent, et que l'on ne prévoit pas la construction d'un nouveau couvent ou d'un hôpital, qu'est-ce qui fait de l'argent? Mais cet argent inutilisé sera donné à l'évêque pour les œuvres diocésaines. Nous voulons laisser au monde ce qui est du monde. Nous voulons mener une vie purement spirituelle. Et il ajoute, la colombe fait son nid dans les hauteurs et dans un endroit propre. Et c'est avec légèreté qu'elle se meut dans les airs. Il doit en être de même pour notre congrégation de petits frères. Dans son testament spirituel, dicté le 25 janvier 1860, il n'a que 40 ans. Il pense déjà à ça. Mais le bienheureux Pierre manifeste son expérience personnelle de la vie ascétique et contemplative. Il a une profonde pénétration des mystères du cœur humain. Il a une claire vision des problèmes posés à des frères à donner aux soins des malades. En premier lieu, il insiste sur le culte de l'Eucharistie. Il écrit ici-bas, la chapelle, c'est votre paradis. C'est un peu comme à Saint-Charles-Borromée autrefois. Vous savez, c'était comme ça avec le père Valère Dubé. Il avait fait ça, oh mon Dieu, il y a 30-40 ans. Autour du tabernacle, placé tous les jours, même ordinaire, de belles fleurs. En entrant et en sortant, inclinez-vous profondément jusqu'à terre, car le Seigneur qui habite là est le roi du ciel. Il parle ensuite des supérieurs qui doivent posséder une inébranlable confiance en Dieu. Et même si les bilans financiers sont au rouge, oui, ils doivent être pleins de douceur. Car la colère blesse profondément des cœurs d'hommes. Alors ils veilleront à la mortification pour eux-mêmes et pour les autres. Car comme la prière est source de sagesse, de même la mortification est fontaine de grâce. Et leur devoir, c'est d'éclairer leur communauté. Plutôt que de sages administrateurs, ils doivent se montrer des hommes de foi. Ils formeront personnellement les postulants, ceux qui rentrent dans la congrégation pour demander à devenir vraiment des frères. Et puis, ils les formeront en particulier à une vie de prière et de pénitence. Le bienheureux Pierre Friedhofen recommande aussi très fortement le culte de la Vierge Marie. Il écrit, ou il dicte, elle est venue au secours de notre barque quand elle était battue des flots et l'a gardée des écueils. Mais la vénération la plus agréable à la Mère de Dieu, ce sont nos progrès dans l'imitation de Jésus-Christ. Donc c'est beau ça, hein? La vénération la plus agréable à la Mère de Dieu, ce sont nos progrès dans l'imitation de Jésus-Christ, son Fils. Hein? C'est ce qu'elle a fait elle-même toute sa vie, étudier son Fils et le copier. C'est au nom de Marie, refuge des pécheurs, que nous aurons soin de ceux qui se sont éloignés de Dieu et que nous rencontrons malades et désespérés à cause de la maladie et de la mort. Alors le bienheureux Pierre Friedhofen recommande encore d'avoir souci des pauvres. On peut lire, l'aumône n'appauvrit pas, car elle nous fait les créanciers de Dieu. Puis il ajoute, ne leur posez pas trop de questions pour être sûr que ce sont bien des indigents, car vous finiriez par être dur de cœur. La prudence ne doit pas détruire la charité. Monsieur, quand je me promenais dans la rue avec mon fils, qui avait été itinérant, il voulait toujours que je donne à tout, tout ce qui était. As-tu un 30 sous? As-tu un dollar? Faut leur donner, faut les aider, tout le temps. Ça pouvait coûter 20 dollars, une promenade. Dans les communautés, pas de discorde, mais la paix. Qui doit être la reine d'une maison religieuse. Et il dit, la paix ne parle pas, mais comme une douce tiédeur ou un air parfumé, elle rejoint le cœur et l'œuvre. La paix est le fruit de la force, dit-il. Elle naît à partir de la domination des passions. Il n'y a pas de paix là où se trouve orgueil, colère, vengeance, jalousie. Si la paix est un printemps, la discorde est un orage de grêle sur un jardin fleuri ou sur des moissons mûres. C'est un ouragan qui détruit. Comme du verglas, on pourrait dire. On trouve aussi dans son testament, le testament du bienheureux Pierre Friedhofen, d'autres belles choses. Il insiste pour que Dieu soit contemplé et adoré à travers toute la création. Oui, toute la création. Un peu comme cette prière de remerciement que je vous ai lue vendredi de l'abbé Quast, Michel Quast. Il n'y a là ni romantisme, ni simple lyrisme, c'est pas pour faire de l'épate qu'il dit ça. C'est un pur esprit de foi et de contemplation. Enfin, il termine son opuscule en recommandant le chemin de l'obéissance. Plus sûr, dit-il, que celui de l'intelligence. Oui, l'obéissance, ça peut paraître curieux aujourd'hui, mais c'est plus sûr que l'intelligence. L'intelligence qui se croit toujours supérieure. Il faut être intelligent. Mais c'est cette espèce d'intelligence orgueilleuse qui est dangereuse. C'est ça qu'il veut dire. Le chemin de l'obéissance plus sûr que celui de l'intelligence. Pas facile à comprendre et à admettre que c'est difficile. Et à travers ces divers écrits, on découvre véritablement l'âme authentique de ce serviteur de Dieu, le bienheureux frère Pierre Friedhofen. Alors, il est déjà malade quand il abandonne son métier de ramoneur, je vous l'avais dit. Et Pierre Friedhofen n'est jamais bien portant dans la suite. C'est une vie difficile. La maladie achève d'ailleurs de purifier puis de sanctifier son âme. C'est ça la maladie, c'est le rôle de la maladie. quand elle est pas trop grosse, trop grande, parce qu'autrement elle peut presque nous détruire. Mais il y a des âmes particulières qui passent à travers des maladies terribles et qui gardent le sourire. Elles sont soutenues par l'Esprit Saint, j'en suis sûr. Durant l'hiver de 1856-1857, il se trouve même si mal qu'il ne peut dicter une lettre. En décembre 1860, il envoie la dernière à son cher abbé Lys, qui s'intéresse à lui depuis le début. À la tuberculose pulmonaire qui le mine, s'ajoute quoi? L'hydropisie, qui lui gonfle les deux jambes et la main gauche. C'est dur, ça. Il écrit, il dicte, « Si d'autres phénomènes aussi graves se produisent, il n'y aura aucune possibilité de guérison. Je me sens chaque jour plus faible. Ou comme je serais heureux de mourir au plus vite, ma grande joie serait de mourir durant les fêtes de Noël. Quelle joie si je pouvais chanter au ciel avec les anges le Gloria in excelsis Deo. » Eh bien, ce souhait qu'il formule le 17 décembre va être exaucé. Et le 21 décembre 1860, oui, le 21 décembre, à 2h30 du matin, il a reçu le sacrement des malades, qu'on appelait l'extrême-onction dans ce temps-là. Il expire à 2h30 du matin, à 41 ans. Jusqu'au bout, il a gardé sa sérénité. En faisant chanter, comme il faisait quand il était ramoneur, en faisant chanter par les frères son cantique préféré, Amar Maria. Oui, celui que ramoneur, il entonnait sur les toiles, vous vous souvenez, puis il les faisait chanter par la foule. Ses funérailles ont eu lieu au milieu d'une immense foule en larmes, tellement il était aimé. Le curé de Lorenzi a exalté l'œuvre du bienheureux Pierre Friedhofen. Il a révélé qu'avant de mourir, la Vierge lui est apparue. Il lui a mis en main l'enfant Jésus. Ça arrive assez souvent, ça, chez les saints. Il paraît que c'est arrivé à Saint-Benoît-du-Lac avec le frère Hilaire, qui est mort il y a bien 50 ans et plus. Le défunt est enseveli au cimetière de Coblenz. Et l'impératrice Augusta fait poser sur la tombe une grande croix de pierre. En 1880, les frères de l'Institut, les frères de Miséricorde, obtiennent un carré réservé pour leur mort et les restes de leur fondateur y ont été inhumés. La grande croix de pierre transportée à cet endroit-là. En 1916, le frère Wolf explore la correspondance échangée par le bienheureux Friedhofen et l'abbé Lys. Il apparaît alors à travers ses écrits la sainteté de l'ancien ramoneur. Comme je vous ai dit, ça a pris 60 ans après sa mort, ou presque. Le 20 mai 1919, on recherche et retrouve ses restes, qui sont placés dans une cassette métallique, mais on ne fait rien pour entreprendre un procès de canonisation. On croit que c'est pas la peine pour petit frère comme ça. Cependant, en 1920, un jésuite, se charge d'étudier les écrits de Pierre Friedhofen et rédige une biographie. C'est le père Schett. Et puis, en 1927, on entreprend le procès informatif diocésain, mais la Seconde Guerre mondiale retarde la poursuite des travaux. Ce n'est qu'en 1972, il n'y a pas longtemps, on s'aperçoit que la cause avait des chances de succès. Alors, le 3 mai 1983, les consulteurs théologiques, leur remettent, c'est sérieux, des béatifications et des canonisations, ils reconnaissent l'héroïcité des vertus de ce petit frère Pierre Friedhofen. Il souligne son ascension continue et sereine vers une perfection chrétienne de plus en plus grande, poursuivie de toutes ses forces et avec une confiance inébranlable en Dieu et en la Vierge. Alors, le 24 septembre 1983, Jean-Paul II promulgue cette héroïcité. Puis depuis, les miracles obtenus par l'intercession de ce petit et humble frère laïc, car les frères sont des laïcs, n'oubliez pas ça, ce sont pas des clercs. Nous, les laïcs, sans vœu, ce sont nos frères. C'est pour ça qu'on l'appelle des frères, comme les frères des écoles chrétiennes, les frères de l'instruction chrétienne, les frères Saint-Gabriel, les frères hospitaliers. Lui, c'est un frère hospitalier. Enfin, un frère s'occupe des malades. Mais cet humble frère, tout ça, là, s'aperçoit que les miracles confirment sa sainteté. Et le pape proclame en béatifiant Pierre Friedhofen le 23 juin 1985. Le pape dit, « L'amour du Christ nous presse. » C'est ce que l'apôtre Paul nous déclare à son propre sujet. Or, c'est ce même amour qui a poussé Pierre Friedhoffen à l'âge de 30 ans à consacrer entièrement sa vie à Dieu et au service des malades. Il a vu la misère des gens. Il a pris conscience de sa mission d'apostolat et de charité. L'œuvre de fondation de son institut n'a pas manqué de difficultés et d'épreuves au milieu desquelles le bienheureux s'est montré un homme à la fois inébranlable, plein de confiance en la providence divine et en l'aide de Marie. Et le pape ajoute, c'est dans ces sources surnaturelles de force qu'il a puisé son extraordinaire énergie et sa vive persévérance. Depuis sa mort prématurée à 41 ans, les semailles de Pierre Friedhoffen ont donné des fruits riches et abondants. Aujourd'hui, les frères de la miséricorde sont à l'œuvre dans différents pays d'Europe, au Brésil et même en Malaisie. Dans la personne de ce bienheureux, l'Église honore aujourd'hui un homme dont le programme de vie et d'action se révèle en avance sur les temps. Et Jean-Paul II conclut en disant, ses soins ne s'étendaient pas seulement à la maladie physique, mais aux besoins de la personne tout entière, écoutez bien, et particulièrement à ses besoins spirituels et religieux. Nous avons tous besoin de spiritualité. Nos enfants en ont besoin, nos malades aussi dans les hôpitaux. Qui va transmettre notre foi à nos enfants, nos malades, si nous disparaissons tous, mon Dieu? Le pape ajoute, notre époque a besoin d'un tel exemple et de telles personnes qui sachent répondre aux nécessités de leur prochain et montrent la voie vers celui qui a pris sur lui toutes nos souffrances pour nous en libérer par sa mort et sa résurrection. Puisse la vie et l'œuvre du bienheureux Pierre Friedhoffen devenir également aujourd'hui pour beaucoup un modèle pour les guider et un stimulant. Un stimulant, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Et j'espère que cet analphabète, ce ramoneur, ce petit orphelin, ça vous stimule de voir ça. C'est aussi la fête aujourd'hui de quelqu'un qui est né en Hollande, qui a travaillé en Allemagne, lui aussi, Pierre Canisius, un jésuite, prêtre et docteur de l'Église. C'est Pierre Canisius qui a été... Oh non, il n'était pas jésuite, lui. C'était un homme... Je ne sais plus. C'est un homme vraiment remarquable, hein, qui a été professeur, prédicateur, catéchiste, écrivain, missionnaire, puis qui a essayé d'éviter que l'Allemagne passe au luthéranisme. Il a vécu à Fribourg, en Suisse aussi, ces dernières années. Et il écrit, on voit ça dans le bréviaire, au 21 décembre, « Ton infinie bonté a voulu, pontife éternel, il parle à Jésus, que je confie avec empressement les faits et la confirmation de cette bénédiction apostolique de tes apôtres, que l'on va visiter au Vatican, et qui, sous ta conduite, accomplisse des merveilles. Car c'est sous sa conduite à Jésus qu'on accomplit des merveilles. C'est pas en s'éloignant de lui. Et je m'adresse à une auditrice qui m'a écrit, qui dit qu'elle a beaucoup de difficultés à croire. Mais il faut prier, puis il faut le demander, il faut dire à l'Esprit-Saint, prends-moi. Il faut parler à Jésus comme à un ami. Il faut se laisser accompagner par lui quand on marche, quand on va quelque part. Puis il faut entrer dans une église de temps en temps, pourquoi pas. Il y en a qui sont ouvertes, quelques-unes. Et puis prier. Ne serait-ce qu'une minute ou deux, si on ne peut pas. Mais une petite prière, faite avec ferveur. Ça rend nos cœurs un peu semblables à ceux de ces saints, comme le bienheureux Pierre Friedhoffen, moi qui m'est très très cher et que j'aime beaucoup.